VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'OMS a déclaré urgence sanitaire mondiale, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, la MINUSCA annonce que les combattants de trois groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays.
Au Soudan, les généraux et les meneurs de la contestation ont signé hier un accord sur le partage du pouvoir.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a continué à attaquer les quatre élus du Congrès, cible de tweets jugés auparavant racistes par la Chambre basse.
En sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est désormais une urgence sanitaire mondiale. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie qui a fait près de 1700 morts depuis l'été dernier. Le point avec Bagasikoura.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué qu'il était temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie, mais il a recommandé que les frontières de la RDC avec ses voisins restent ouvertes. L'agence spécialisée de l'ONU sur la santé a pris sa décision après la découverte d'un cas dans la ville de Goma à la frontière avec le Rwanda. En juin, deux cas ont également été détectés en Ouganda. L'urgence sanitaire mondiale est une mesure exceptionnelle qui n'a été décrétée que quatre fois par l'OMS en 2009. Pour la grippe aviaire H1N1, en 2014 pour la poliomyélite et pour l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 300 morts dans trois pays d'Afrique de l'Ouest et en 2016 pour le virus Zika. Dans un communiqué, l'OMS a précisé que cette déclaration est une mesure pour reconnaître les risques potentiels au niveau local et régional et la nécessité d'une action intensifiée et coordonnée pour y faire face. L'épidémie actuelle est la dixième depuis 1976 en RDC et a fait près de 1700 morts.
En Centrafrique, les combattants de trois groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé hier la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le point avec Abdulrahman Dia.
Les éléments du Front démocratique du peuple centrafricain ont été complètement désarmés, a déclaré Kenneth Gluck, représentant spécial adjoint de la MINUSCA. Les combattants du mouvement Révolution et Justice ainsi que ceux de l'UFR anti-Balaka ont également rendu les armes, a-t-il ajouté. Plus de 450 combattants ont été désarmés dans la préfecture de la Nanamambéré, dans l'ouest du pays. Ce désarmement intervient dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement, lancé en décembre 2018 par les autorités. À ce jour, cinq groupes armés y ont pris part. Celui du mouvement de 3R est actuellement en cours, selon la MINUSCA. La majorité des 14 groupes signataires de l'accord de paix de Khartoum n'ont toutefois pas encore désarmé leurs troupes. Cet accord est le huitième conclu. Plus depuis 2013, la situation sécuritaire reste particulièrement fragile et les violences ont forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.
Au Soudan, les généraux et les meneurs de la contestation ont signé hier un accord sur le partage du pouvoir, un moment qualifié d'historique et salué par l'Union africaine et les États-Unis. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
C'est une étape cruciale vers une réconciliation globale, s'est félicité le médiateur de l'Union africaine Mohamed El Hassem Lebat après avoir paraphé le document. L'ambassade américaine à Khartoum a de son côté encouragé les deux parties à continuer leurs discussions. Nous sommes impatients d'accueillir et de travailler avec de nouvelles institutions pour répondre aux défis pressants du Soudan, a indiqué sur Twitter Tibor Nage, le monsieur Afrique du département d'État américain. Des discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours sur l'immunité réclamée par les militaires et rejetée par le mouvement de contestation. La contestation et le conseil militaire qui a déposé le 11 avril, le président Omar El-Béchir s'était accordé le 5 juillet sur le principe d'un partage du pouvoir après une intense médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie.
Au Mali, la justice a jugé hier irrecevable pour des questions de forme une plainte en diffamation intentée par le député Karim Keïta, fils du président Ibrahim Boubacar Keïta, contre deux journalistes, a déclaré à l'AFP l'un des avocats des journalistes poursuivis, Alassane Diop. Monsieur Keïta accuse ses confrères de l'avoir impliqué dans la disparition d'un reporter d'investigation. Birama Touré, âgé d'une cinquantaine d'années, ex-journaliste de l'hebdomadaire privé Le Sphinx, n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille et le directeur de publication Adama Dramé. Ce dernier avait affirmé en 2018 que M. Touré avait auparavant approché Karim Keïta à propos d'un dossier portant sur sa vie privée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a, pour la quatrième journée consécutive, attaqué les quatre élus non blanches du Congrès, continuant de s'interroger sur leur loyauté à l'Amérique et suggérant qu'elles devraient quitter l'Amérique. « Je crois que dans certains cas, elles haïssent l'Amérique », s'est écrié M. Trump en parlant des parlementaires Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib lors d'un meeting politique à Greenville, en Caroline du Nord. La foule a réagi par des « renvoyez-la » concernant Ilhan Omar, une ancienne réfugiée somalienne que M. Trump a accusée de propos antisémites en raison de ses déclarations sur Israël.
Auparavant, ici à Washington, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avait rejeté par 332 voix pour et 95 contre une résolution demandant le lancement immédiat d'une procédure d'impeachment en vue de la destitution du président Trump. Dans son intervention en Caroline du Nord, M. Trump a qualifié ce débat de projet le plus ridicule qui soit, déclarant terminer cette question de destitution. Rien n'empêche cependant un autre membre de la Chambre basse de proposer une autre résolution à ce sujet.
Il a été le baron de la drogue le plus puissant et le plus recherché du monde. Joaquin Guzman, dit El Chapo, a été condamné hier à la prison à perpétuité aux États-Unis. Ses évasions rocambolesques, son arrestation en 2016, rappelle avec Gabi Dorsil.
El Chapo, le courteau, est un surnom dû à sa petite taille. Né le 4 avril 1957 d'une famille pauvre dans le nord-ouest du Mexique, l'enfant, Joaquin Guzman, vendait des oranges, caramels et boissons gazeuses. Adolescent, il se met à cultiver la marijuana et le pavot. Il sera recruté par le chef du cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé « le parrain ». À l'arrestation de ce dernier en 1989, Joaquin Guzman fonde le cartel de Sinaloa. Il fournira de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana dans le monde, dont plus de 1200 tonnes vers les États-Unis. Il a des flottes de sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux, et a même figuré un temps sur la liste du magazine Forbes des hommes les plus riches du monde. En 1993, des tueurs l'ont confondu avec un cardinal à l'aéroport de Guadalajara. Un mois après, il est arrêté au Guatemala. Détenu dans une prison de haute sécurité mexicaine, il soudoie ses gardes et s'échappe en 2001, caché dans un bac à linge sale. Il a fallu 13 ans pour le rattraper. Là encore, il s'évade en juillet 2015 par un tunnel d'1,5 km, débouchant sous la douche de sa cellule. Cette nouvelle cavale sera brève. Il est arrêté en janvier 2016 dans son fief de Sinaloa. Expulsé vers les États-Unis, El Chapo a été condamné mercredi par un juge de New York à la prison à vie, plus 30 ans. Il devra purger sa peine à Florence, dans le Colorado, surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Cette prison, au milieu de nulle part, est considérée comme la plus sûre et la mieux gardée aux États-Unis.
Les États-Unis ont retiré officiellement la Turquie de leur programme d'avions furtifs F-35 après que la Turquie a accepté la livraison de systèmes de défense antimissiles S-400 russes. C'est ce qu'a annoncé hier la Maison-Blanche, expliquant que le F-35 ne peut pas coexister avec une plateforme de collecte de renseignements russes qui va être utilisée pour percer ses capacités de pointe. La Turquie, qui est une alliée de l'OTAN, a qualifié la décision américaine d'erreur, rejeter les soucis du Pentagone et parler d'éventuels dommages irréparables dans les relations stratégiques d'Ankara avec Washington.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAL. Nous sommes à la veille du rendez-vous tant attendu de cette première CAN à 24 équipes
la finale entre l'Algérie et le Sénégal. Les deux équipes poursuivent leur préparation. Amdine Sy, notre correspondant à Dakar, est présentement au Caire et a assisté hier à la séance d'entraînement des Lions de la Teranga. Il nous fait le point.
Les Lions du Sénégal s'entraînent dans la sérénité. Ils ont effectué leur troisième et avant-dernière séance avant cette grande finale au terrain annexe du stade du Centre Jouin. Il faut dire que pour cette séance d'entraînement, les journalistes ont voient que à 15 minutes, l'entraînement était à huis clos. Mais on peut retenir que l'effectif est au grand complet. Qui a été forfait depuis le match contre l'Algérie et entraîné pour la première fois. Donc, à lui, tout se dispose d'un groupe au grand complet et il se prépare dans la sérénité pour cette deuxième finale de l'histoire du Sénégal.
Le Sénégal n'a échoué qu'une seule défaite dans cette CAN et c'était face à cette même Algérie. En phase de poule, les Fenecs ont la meilleure attaque de ce tournoi avec 12 buts inscrits. Les Lions de la Teranga, qui ont la meilleure défense, un seul but encaissé, seront privés d'un de leurs piliers en défense, Kalidou Koulibaly. Quelle solution de rechange pour le coach Aliou Cissé? Amdine Sy nous donne des pistes de solution.
Kalidou Koulibaly suspendu pour cumul de cartons. Il a écopé de 2 cartons jaunes. Il sera suspendu. D'ailleurs, le Sénégal avait quand même adressé une demande de grâce à la CAF, mais malheureusement, la CAF n'a pas suivi le Sénégal d'attentement. Donc, le Sénégal qui va jouer sans Kalidou Koulibaly. Mais il y a beaucoup de solutions de repas, puisque quand Kalidou est là, il jouait avec Sarr Sané. Lors du premier match contre la Tanzanie, Sarr Sané s'est blessé et il a été remplacé par Cheikh Kiaté, un joueur polyvalent qui joue milieu terrain et en défense centrale également. Donc je pense que ce sera la paire Cheikh Kiaté et Sané qui vont jouer.
En face, l'Algérie bénéficie de son capital confiance vu qu'elle a déjà battu le Sénégal lors de la phase de poule de cette même CAN. De quoi donner plus d'espoir aux supporters des Fenecs qui croient pouvoir décrocher leur deuxième médaille continentale dans ce tournoi après celle de 1990.
C'est nous qui va gagner cette coupe.
On va la gagner 3-0. Le peuple, c'est le numéro 12.
Je suis venu ici pour supporter l'Algérie, bien évidemment. Ça fait 29 ans qu'on attend ça, j'en ai 28. C'est le moment idéal. Et du coup, je vais représenter tout le monde, ma famille, le peuple. L'Algérie vient un très très grand moment. Et on en fait partie. Et...
L'équipe tire sa force à ce moment-là.
Bien évidemment. Généralement, on oublie vite. Mais ça, tu peux pas l'oublier. Ça, c'est un moment historique.
La consolante pour le Nigeria, encore troisième au bout d'un match sans rythme. Les Super Eagles se sont classés troisième de la CAN pour la 8e fois en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but de Dayon Igalo lors de la petite finale disputée hier au Caire. Avec désormais 5 réalisations, Igalo trône au sommet du classement des buteurs devançant les Algériens Riyad Mahrez et Ounas Adam et la star du Sénégal Sadio Mané. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur cette petite finale. C'est le coup de sifflet.
Bonjour. Quand deux bonnes équipes décident de jouer le jeu, malgré la fatigue, on assiste à une rencontre somme toute agréable à suivre. Dans un match de classement où chacun a évolué avec ses qualités, les Super Eagles du Nigeria, qui ont fait preuve de plus de solidité et de réalisme, face à des Aigles de Carthage, certes dominateurs, mais peu lucides en deuxième période, méritent finalement, ne serait-ce que pour leur parcours d'ensemble, la victoire étriquée d'un but à zéro, qui leur offre la médaille de bronze. La première bonne surprise a été la présence de nombreux titulaires dans les 11 de départ, même si Alain Giresse avait aligné pour la première fois 4 éléments de l'expérience de Tunis, avec la volonté manifeste d'améliorer les automatismes et la production collective de la formation maghrébine. De leur côté, les Nigériens, toujours aussi efficaces en attaque et solides en défense, ont réussi à scorer dès la première occasion d'Igalo à la deuxième minute de jeu et su quadriller le terrain, empêchant les Tunisiens de sauter assez rapidement les lignes pour être véritablement dangereux à l'approche de la zone de vérité. Malgré sa courte défaite, la Tunisie remplit son contrat en retrouvant le carré d'as 15 ans après et surtout en finissant sur une bonne note au niveau de la production collective. Quant au Nigeria, il confirme la bonne impression laissée tout au long de la compétition avec une équipe jeune dont perspective est rassurante en défense, percutante et réaliste en attaque où le danger est directement porté par le trio Chukwueze, Iwobi, Igalo, loin des tergiversations techniques de leurs devanciers. Rien à dire, la Tunisie est de retour et un grand Nigeria revient de bon augure pour le bouquet final de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations qui s'achève vendredi avec le sommet Algérie-Sénégal.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé hier un accord sur le partage du pouvoir. Cet accord constitue un premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. En dépit de cette étape cruciale, des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur d'autres points de l'accord. Eric Manirakiza a joint à Khartoum le journaliste et activiste soudanais Salah.
Les premières dispositions de transition et le Conseil souverain. Il doit se composer de 15 membres militaires choisis par le Conseil militaire de transition et 5 membres choisis par le Conseil de déclaration de liberté et de changement. Outre les 10 membres déjà mentionnés, une personnalité civile choisie en son tout, un conseil de 11, 15 militaires dits civils et puis une personne choisie par les deux. Le conseil de sécurité sera présidé durant les premiers 21 mois à compter de la date de signature du présent accord à l'un des membres militaires. Dans les 18 mois qui restent de la période de transition, il sera présidé par l'un des membres civils.
Justement, il y a des points qui restent en suspens qu'il faut vider.
Il y a la constitution de transition qui devra être discutée et agréée et signée dans les pourparlers qui commenceront samedi prochain.
Hemeiti a salué un moment historique. Est-ce que c'est un signe d'un accord qui va tenir?
Oui, moi je suis optimiste cette fois. Je pense que l'accord n'est pas complet, il n'a pas répondu à toutes les exigences et les conditions des personnes révoltées, mais il établit des bases raisonnables, je ne dis pas solides, je dis raisonnables, pour commencer une période de transition que les deux parties espèrent dans l'introduction de leur accord, de mener le Soudan à des horizons de prospérité, de démocratie, de respect des droits de l'homme. Et la situation sur le terrain n'est pas la même parce que, en fait, le premier accord a été massivement, positivement recueilli par la public, surtout par la jeunesse. Mais cette fois, c'était pas pareil. Même il y a des manifestations qui se sont déroulées ce matin par les étudiants des écoles de Gondor, de lycée, qui ont été représaillés par les forces de soutien rapide du général MSI. Alors, la jeunesse n'est pas tout à fait plus par cet accord. Les posters se multiplient dans les sites des médias sociaux pour contester quelque partie de cet accord.
Joint à Khartoum, le journaliste et activiste soudanais Salah.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, le syndicat des magistrats dénonce les dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire, notamment la libération illégale de détenus et la détention arbitraire de ceux qui ont été relâchés sur décision de justice mais qui restent en prison. Le SMT qualifie cette situation de deux poids deux mesures. De N'Djamena, André Kotmadjingar, notre correspondant, fait le point.
Le syndicat des magistrats du Tchad affirme avoir des documents qui prouvent à suffisance qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'exécution des décisions judiciaires. Djimé Arabi, ministre de la Justice.
Moi, en tant que garde des sous ministre de la Justice, si l'exécution d'une décision judiciaire peut troubler l'ordre public, je pourrais demander à ce que l'exécution de cette décision soit arrêtée. En dehors de ça, je ne sais pas pourquoi je dois écrire pour demander l'arrestation et la libération d'un justiciable.
Les cas qui défraient la chronique selon les magistrats sont entre autres, la condamnation d'un sous-préfet à 18 mois de prison ferme et qui n'a jamais été en prison, et l'annulation par un acte des autorités judiciaires de la décision de la chambre d'accusation annonçant la nullité de la procédure dans un dossier. Pour Djonga Arafi, secrétaire général du SMT, le ministre est bel et bien au courant de ce dysfonctionnement.
Nous avons conduit une mission qui a rencontré le ministre Garde des Sceaux pour lui faire part de ses agissements. Nous avions été amadoués par les propos du ministre selon lesquels des choses pareilles ne vont plus jamais se répéter à l'avenir, mais nous avons des gens qui sont condamnés à des peines fermes. Ils retrouvent la liberté totale par un simple acte. Des cas où des gens qui sont soit condamnés à des peines sursitaires, soit ils bénéficient de la liberté dont on refuse de les libérer.
Tout est parti de la saisine du bureau exécutif du syndicat des magistrats du Tchad par deux cabinets d'instruction faisant état de l'ingérence des autorités de la chancellerie dans le fonctionnement des différentes juridictions. Djimé Arabi, ministre de la Justice, refute ces allégations et qualifie cette sortie médiatique de dilatoire.
On ne peut pas du tout, au niveau de la justice, se permettre de faire des libérations illégales ou bien des détentions arbitraires. Peut-être que je ne suis pas au courant. Ils auraient pu se rapprocher de moi pour me dire qu'il y a tel ou tel cas. J'étais tombé de nu.
Maître Lokulde Francis, dont trois de ses clients étaient victimes de ces dysfonctionnements, salue le courage des magistrats qui sont sortis de leur silence.
Conformément aux dispositions de l'article 450 de notre code de procédure pénale, mes clients devaient être mis immédiatement en liberté. Malheureusement, ils n'ont pas été libérés jusqu'à ce que la condamnation ferme de la cour d'appel s'ensuive. Si aujourd'hui, les magistrats se sont retrouvés pour débattre du dysfonctionnement de la justice, on ne saurait que s'en réjouir.
Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Midaï Guérimbaï, salue lui aussi le courage des magistrats, bien qu'ils soient tenus au droit de réserve, mais ont pointé du doigt le vrai problème qui entrave le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il plaide pour une véritable séparation de l'exécutif et du judiciaire au Tchad. André Kodmadjingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo urgence sanitaire mondiale quelques jours après le premier cas confirmé à Goma et deux autres qui avaient été auparavant enregistrés en Ouganda. Quelle signification? Eddie Sango a posé la question au responsable de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Beni, le docteur Aaron Aruna.
Cela signifie seulement que pour résoudre des problèmes de la maladie à virus Ebola, ça nécessite à ce que la communauté internationale aussi soit impliquée, que ce n'est plus seulement le problème qui concerne la République démocratique du Congo, c'est un problème qui concerne plusieurs pays, plusieurs nations, c'est ce qu'on veut dire, et pour résoudre ce problème-là, ça nécessite à ce que tout le monde puisse intervenir.
Mais quelles conséquences cela peut-il avoir pour le Congo?
L'épidémie a commencé depuis des mois, je pense, dans peu de jours, où nous allons réaliser une année. Il y a des moments difficiles que nous avons traversés où par jour, il y avait 10 cas, il y avait 10 décès, ainsi de suite. La situation semble être maîtrisée ces derniers temps et qu'il reste un peu de ressources pour avancer, pour terminer cette épidémie. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Il vient de mettre un quatrième plan de riposte. Il est en train de mobiliser l'argent pour qu'on puisse arriver au bout de cette épidémie. Bon, la raison avancée, c'est parce qu'il y a un cas à Goma, c'est vrai. La fois passée, il y avait un cas à Ouganda. On n'a pas déclaré l'épidémie. La raison, je ne sais pas, parce qu'il y a des cas qui sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour déclarer. Les gens s'apportent de l'ensemble. Je pense que l'OMS a ses raisons qui poussent à ce qu'elle puisse se déclarer comme telle et les gens s'apportent internationales. Nous sommes maintenant dans la bonne voie.
Et justement, quelles sont les mesures que les autorités congolaises ont prises après ces premiers cas à Goma? Quelqu'un qui a traversé plus de 280 kilomètres et puis des gens qui vont en Ouganda, au Rwanda. Quelles sont les mesures que les autorités prennent justement pour empêcher que l'épidémie ne s'étende?
On a essayé, à partir de ce cas, de renforcer tous les points d'entrée, tous les points de contrôle. Il y a des points où nous avons mis les activités doivent se passer 24 heures sur 24 heures. Et puis, nous allons essayer de revoir les personnels qu'on doit mettre sur place là, que ce soit les personnels médicaux, non seulement qui sont là pour vérifier la température, mais qui soient capables de regarder quelqu'un qui est malade et arriver à dire, mais si bien que la température n'est pas élevée, mais ton état nécessite à ce que vous soyez suivi ou que vous puissiez faire un examen un peu particulier. Personnellement, j'ai participé à cette réunion avant que l'ONU se puisse prendre les décisions. Je l'ai dit, si on prend des mesures à ce que le pays soit en embargo, qu'il n'y ait pas de circulation, je pense que ça peut avoir un impact négatif. Comme vous le savez, surtout à l'est du pays, sur Goma, Bukavu, Beni, les gens vivent des commerces et la porte de sortie souvent pour les commerces, c'est Ouganda, Rwanda, ainsi de suite. Ils m'ont rassuré qu'ils ne vont pas arriver à fermer les frontières, mais ils vont seulement demander à ce que tout le monde puisse participer et qu'on puisse renforcer la surveillance au point d'entrée et aussi la surveillance à l'intérieur du pays pour contrôler les mouvements des populations, surtout des personnes suspectes.
Mais le pasteur qui est décédé a traversé une longue distance. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on enregistre de nouveaux cas, soit à Goma, soit le long du chemin qu'il a parcouru?
Nous avons mis 34 séries d'activités depuis Beni jusqu'à Goma et les activités sont en train de se réaliser et on a listé toutes les personnes qui étaient en contact de lui depuis Beni jusqu'ici et il y a une grande partie qui sont vaccinés aujourd'hui et ils seront vaccinés demain et dans 3-4 jours, tous les contacts effectivement ils seront vaccinés.
Le docteur Aaron Haruna, responsable de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Il y a un demi-siècle, pour la première fois dans l'histoire, l'homme pose le pied sur la Lune. Une incroyable aventure humaine vue d'Afrique qui se raconte encore pour avoir marqué plusieurs générations. Le récit de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
L'histoire de la première aventure humaine sur la Lune, conduite par Neil Armstrong, a traversé les générations. Loin des nostalgiques d'une époque, Armstrong Agaya est journaliste, la trentaine révolue. À sa naissance, son père l'a baptisé avec ce prénom, Armstrong Agaya.
Pendant de nombreuses années, même à l'école primaire, il m'a été difficile de me faire accepter avec ce prénom. On pensait que j'avais choisi d'imiter la vie d'un Américain simplement, alors que je suis bien né Armstrong de mon prénom et Agaya de mon nom de famille. J'étais tout jeune et j'avais du mal à comprendre. Quand je demandais, on essayait de m'expliquer, mais à chaque fois je regardais la Lune et je me demandais mais comment quelqu'un a pu aller sur la Lune.
Il y a 50 ans, jour pour jour, les astronautes américains de la mission Apollo 11 ont changé la vision que l'humanité avait de sa place dans l'univers. Le professeur Donatien Mavungu se trouvait au Canada pour ses études le 20 juillet 1969 et se souvient encore.
Nous avons plutôt retenu l'expression du message. Le message pour dire, oui, la science peut encore faire beaucoup pour justement répondre à des défis. Je prends par exemple le grand fléau, le VIH-Sida. Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman ont isolé le virus. Ça a été un grand stimuli pour la communauté scientifique. Je voulais être aussi un genre de Neil Armstrong. Aujourd'hui, j'ai développé un traitement contre le VIH-Sida.
L'événement se passe un an après l'effervescence de mai 68 et en pleine guerre froide où le continent africain était divisé entre ceux qui défendaient le bloc soviétique et les partisans du capitalisme. Enseignant à la retraite, premier africain correspondant de l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon en France, Raphaël Koukamizer garde de beaux souvenirs de la mission Apollo 11.
Je suis dans un pays, le Congo socialiste communiste à l'époque. Nous sommes dans cette effervescence communiste. Les Américains, donc la puissance capitaliste, va envoyer sur la Lune des hommes. J'ai 12 ans et je suis en classe de 6e. On se dit, tiens, les Américains vont envoyer des gens sur la Lune. Mais c'est ça alors. Mais c'est une défaite vis-à-vis, disons, de notre bloc, au bloc auquel on appartenait.
Libreville, Ismaël Obiangze, VO Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Il y a 50 ans, cette semaine, trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, entraient dans l'histoire en se posant sur la Lune. Un événement majeur dans la conquête spatiale qui évoluera de la rivalité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique à la possibilité d'envoyer des touristes dans l'espace dans quelques années en passant par le lancement de milliers de satellites depuis par plusieurs pays. L'Afrique, elle, essaie de prendre le train en marche. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.